Athletic, Beta Athletic. L'État contre la critique, Beta Athletic. L'État contre la critique, Beta Athletic. L'État contre la critique, l'État critique. L'État contre la critique, l'État critique.
Coyote, en conversation informelle avec la commissaire interdépendante Natacha Perracine-Bachelaise, autour du radical care, des institutions vivantes et de sorcellerie capitaliste.
Hola.
Salut.
Comment ça va? Super de vous voir.
Ouais, c'est chouette de te voir aussi.
De te voir aussi. Pour vous, ça doit être drôle aussi, donc j'imagine, parce que là, les labos, c'était la possibilité d'être ensemble et de nouveau.
Ouais. On se disait qu'à la fois, c'est frustrant et fatigant, non? Parce que c'est impressionnant comme l'interface de l'écran, en fait, nous fatigue beaucoup plus, bien sûr, que d'être ensemble.
Ouais, ouais.
Donc, il y a un côté que c'est un défi, mais il y a quelque chose aussi de très réjouissant de pouvoir être ensemble et de pouvoir lire ensemble à distance.
Puis il y a aussi le côté aussi de revisiter des choses qu'on a fait pendant le premier confinement aussi. C'était un peu comment maintenir quand même des discussions qui sont importantes aussi, qu'on a besoin de mener.
Ouais, exactement.
En tout cas, merci de ta présence digitale. Donc oui, on était censé être présent au labo cette semaine, mais en raison des nouvelles mesures sanitaires et la fermeture des centres de production culturelle, on a redéfini notre projet à distance au lieu de l'annuler. Et aujourd'hui, c'est notre quatrième cyberjour en stand à distance.
Donc, quatrième à la foulée.
Ouais.
Quatrième à la suite. Anna et Nuno parlent depuis Lisbonne. Clémence est à Bagnolet. Elida s'excuse, elle est aussi malade aujourd'hui, mais elle parlera demain depuis Barcelone.
D'accord.
Et moi, justement, je parle depuis Athènes. Chaque jour, on se rencontre à peu près 2 à 3 heures pour évoquer un auteur et une œuvre en particulier qui nourrit notre réflexion sur l'État, ce monstre dynamique dont l'horizon nous semble plus que jamais à dépasser par son omniprésence dans l'intimité de nos vies et par son absence aberrante dans des pans entiers des secteurs publics et communs qui seraient à protéger et garantir. Lundi et mardi, nous avons lu des textes d'Eduardo Viveiros de Castro, le chapitre « État et subjectivité » de l'ouvrage politique des multiplicités, et de Pierre Clastres, « La société contre l'État », un ouvrage anthropologique de 1974. Hier, nous avons parcouru l'introduction d'Against the Grain, Homo Domesticus, du politologue James C. Scott. Et ces trois textes qui dénaturalisent l'État occidental et nous aident vraiment à penser sa forme arbitraire, répressive, historique, les rapports de domestication qu'il entretient avec l'environnement, les rapports de domination qu'il entretient avec les corps sujets, tandis qu'on sait qu'il existe une pluralité de formes possibles dont les exemples donnés par les sociétés dites primitives sont des vraies contre-histoires stimulantes au récit dominant. Et pour notre quatrième jour, donc on est heureux de t'accueillir parmi nous et t'inviter à l'expérience d'une lecture collective. Mais avant de commencer d'arpenter un nouveau passage ensemble, on se disait qu'au lieu de t'introduire nous-mêmes, on aimerait beaucoup que tu nous lises ou que tu nous offres des parties ou un passage que tu aimerais lire du texte manifeste que tu as adressé à la Fondation Cadiste, avec laquelle tu collabores régulièrement, et qui présente l'action curatoriale au sens propre et interdépendante sous forme d'initiative dans laquelle tu es engagé depuis le confinement du printemps 2020. Donc, si tu voulais nous lire, on aimerait…
Ok. C'est super. Merci, merci à cette belle introduction. Et puis, je suis vraiment, comme je dis, je suis ravie de vous revoir et de continuer ensemble, puisque… Même vous étiez un élément très particulier et très important pendant la Biennale de Contour qui m'a énormément appris. c'est surtout à partir de ce moment-là que je pense que j'ai commencé que cette initiative aussi avec Hélène a ensuite, c'est un peu très logique comment ça apparaît, certainement actionné par le confinement, et ce que le confinement a été surtout pour les personnes n'ayant pas les mêmes privilèges que nous. Et c'est surtout ça sur lequel on se base dans cette initiative. C'est surtout ce moment de contour auquel je l'ai d'abord vécu comme une énorme frustration et en même temps un énorme honneur et fierté, en fait, de ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire. Néanmoins, la frustration était vraiment dirigée vers cette compréhension, je dirais, de ce que j'imagine vous essayez de faire avec l'État, c'est de comprendre que l'État, ce n'est pas non-vivant, ce n'est pas non-life, dans le mot de Povinelli, c'est pas, mais c'est très vivant, ça se repose à une structure, mais cette structure est portée par les humains ou non-humains, mais par des gens, par des entités qui sont vivantes. Et pour moi, l'institution, c'est la même chose. On parle d'institution comme quelque chose toujours qui est comme si elle a des règles et tout ça, c'est le papier, c'est les lettres, c'est les mots, et tout ça, c'est vrai. Mais en fait, c'est l'application toujours qui compte. Et comment contourner cette application de mots, de gestes. Et pour moi, donc, à partir de contour, bah oui, c'était ça, c'était compréhension que bah, il y avait surtout une, si pas deux personnes qui incarnaient cette institution, qui pensaient qu'ils l'incarnaient, qui pensaient qu'ils la défendent et contre qui j'ai heurté. Voilà. Et quand l'invitation de Cadiz est venue de reprendre le texte que j'ai écrit il y a longtemps, qui est sur le slow institutions, les institutions lentes, je me suis dit, je ne vais pas refaire le même texte. Comme toujours, je suis intéressée, comme vous savez bien, de situer les choses, situer dans le temps, dans l'espace, avec les personnes à qui je m'adresse, avec qui je travaille, pour qui je travaille. Et c'est ça, l'interdépendance que je comprends, commissaire interdépendante, et aussi par rapport au fait qu'en tant que travailleuse culturelle, on n'est jamais indépendante, jamais. Et donc, du coup, c'est venu de ces deux observations, et le texte a été un peu le fruit de ça, je dirais. Bah, je peux dire, parce que tu as dit, au lieu de me présenter, je peux... je peux lire le... Que signifie pour moi le prénom, le pronom nous ?
Nous, ouais, c'est un bon début. Mmh, oui.
Que signifie pour moi le pronom nous ? Dans la lignée de la chercheuse féministe décoloniale Paola Bacchetta, qui rappelle dans ses écrits l'importance de se situer avant d'écrire ou de prendre la parole, je vais me situer rapidement. Donc, je suis une femme cis, hétérosexuelle, blanche, d'Europe de l'Est, issue d'un milieu familial à la fois ouvrier et de classe moyenne, née en ex-Yougoslavie. J'ai un corps valide, mais je souffre d'une maladie auto-immune depuis l'enfance et on m'a récemment donc diagnostiqué une autre maladie chronique. J'ai un diplôme universitaire et je travaille dans l'art depuis de nombreuses années. Au cours de mon enfance en Slovénie, la plus au nord des anciennes républiques yougoslaves, j'ai été marquée par les remarques racistes formulées par les enfants, aussi bien que par des adultes, apparemment raisonnables, à propos des pays d'origine de la famille de mon père, la Bosnie et l'Ukraine. Aujourd'hui, dans l'imaginaire européen blanc, ces régions et de nombreux autres alentours sont associées aux territoires racisés du sud global. Dans le Nord global, je reçois constamment des commentaires sur l'accent slave qui ressort dans toutes les langues étrangères que je parle. Ces commentaires sont soit exotisants, soit humiliants. J'ai dû apprendre seule à me défaire de l'écrasant récit occidentalisé qu'on m'a inculqué dans le système scolaire slovène. Cela m'a amenée à travailler en tant que curatrice et autrice au croisement des pratiques sociales et politiques de l'art, en lien avec l'écologie, l'activisme féministe et le racisme environnemental, ainsi que sur l'impact de la nouvelle ère géologique, parfois appelée Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène ou encore Négrocène, sur le champ de l'art et sur notre appréhension du soin en tant que tâche planétaire. Ce faisant, je me sens redevable à la pensée féministe intersectionnelle que Sarah Ahmed décrit comme une théorie vécue et incarnée. Donc c'est vrai que là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre littéralement ce que donc Paola Bacchetta, moi je l'ai invitée dans un projet que j'ai fait en Belgique. Paola a été en fait, elle a participé à ce congrès mondial des ONG à Nairobi en 1985. Et moi j'ai montré dans l'expo à l'époque en Belgique, mais aussi après dans l'expo consacrée à Delphine Seyrig, un document qui est incroyable, qui parle de cet événement d'une grande solidarité et d'un moment de naissance de féminisme transnational au féminisme de tiers-monde, comme c'était appelé à l'époque, parce que cette vidéo a été commandée par Centre audiovisuel Simone de Beauvoir en 1985. Et comme Paola a dit, voilà, je commence toujours à écrire ou à parler en me situant. C'est important de dire d'où je viens. Ce n'est pas la biographie, mais je dois me situer. Et donc, elle dit, dans cette idée de se situer de manière intersectionnelle, donc qui elle est, d'où elle vient, quelles origines, quelle classe, quelle race, sexualité, religion, tout ça. Et c'est pour ça que je reviens à ce point de dire combien c'est important. Pas seulement parce que dans l'écriture, on emploie, comme vous savez bien aussi, surtout dans le monde de l'art, on emploie le « nous ». Et c'est qui ce « nous » ? Et c'est qui ce « nous » aujourd'hui ? Est-ce que c'est un « nous » planétaire ? Est-ce que c'est un « nous » entre l'auteur, l'autrice et les gens qui lisent ? C'est constamment quelque chose qui existe. Et même moi, quand j'écris, je me défais très... Je ne sais pas, je n'arrive pas à me défaire de ce « nous ».
C'est un « nous » qui me semble toujours cacher une espèce d'accord silencieux entre justement une espèce de, si on parle d'État, non, entre une idée d'un État qui en fait habite ses corps de forme scamotée, qui ne s'annonce pas mais qui est là quelque part, et que je pense qu'il cache très souvent des énormes clivages de subjectivités et de dans ces « nous ». C'est que je trouve qui est particulièrement très fort, Natacha, d'un extrait que tu viens de lire et qui monte particulièrement quand tu racontes toutes ces autres histoires qui sont souterraines au texte, mais qui sont là, qui se ressortent. C'est que dans cet effort de se situer, il y a une énorme attention à situer les corps. Donc, tu parles de ton corps aussi. Et quelque part, bien sûr, la lettre, elle est hantée aussi par une réalité contemporaine très présente, qui est la pandémie que nous sommes en train de traverser, qui en fait casse quelque chose qui est un mythe de la modernité, qui est que les corps sont hermétiques. Donc, les corps sont renfermés en soi-même, comme si on était des boules fermées en soi. Mm-hmm. Et du coup, la pandémie casse ça, parce qu'on se dit, non, on se contamine. On se contamine par l'air, nous sommes des corps poreux, quelque part. Et donc, il y a quelque chose que je trouve qui est extrêmement fort, particulièrement à partir d'une perspective féministe intersectionnelle, qui est la question du corps et de l'incarnation de ces corps. Mm-hmm. C'est quoi ce corps? Comment il souffre? Comment il est contaminé? Et si nous avons vécu dans une modernité étatique qui toujours sépare corps et esprit, cœur et corps, et même distinction des corps par rapport à des espaces, je pense qu'il y a une revendication absolument cruciale et majeure dans cette question du corps, de la réclamation du corps, qui me semble hyper importante. Et qui tout d'un coup, justement, dans cette anecdote importante de Françoise qui ne voulait pas parler de soi et que tout d'un coup, elle a besoin de parler de ça, il y a quelque chose aussi par rapport à une espèce de pratique thérapeutique, non, qui fait partie de cette radical care, quelque part.
C'est ce qui m'a le plus marqué, c'était juste pour vous dire, parce que c'est à quel point le corps somatise. Ça m'a fait penser à... on espère qu'on va pouvoir organiser un débat avec l'initiative, justement, sur la question de comment l'art, surtout des pratiques de care dans l'art, pourraient être comprises comme un élément essentiel de ce qu'on comprend comme santé publique ou, et sa contribution, en fait. On a voulu faire un débat, en fait, autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la vulnérabilité, la santé publique, le racisme, quel type de, comment on dit, de impact et de conséquences a racisme sur les côtés psychologiques et aussi physiques, surtout physiques. Voilà, ça joint à cette porosité, à vulnérabilité et à vouloir, je pense, à travers cette initiative, mais aussi à travers la pratique curatoriale, de rester très proche du fait qu'on est vulnérable et que c'est ça qu'il faut, de quoi on doit take radical care.
Ouais. Et dans une certaine forme, c'est une réclamation même du mot curateur. Tu vas y aller à l'origine de ce mot-là. Enfin, j'ai discuté avec une bonne amie qui est curatrice au sens propre, comme toi, Natacha, jeudi, des curatrices qui en fait revient à l'origine des mots curare, de la question du soin, non à cure, comment on dit, des guérissons, vraiment, qui est à l'origine vraiment du mot et que je pense qu'il y a une dimension, une vraie dimension à être réclamée. Et juste comme parenthèse, comme une réponse à la résistance, il y a énormément de mouvements artistiques au Brésil qui vont parler plus de réexistence, non, n'est-ce pas, que de résistance.
Réexistence.
Réexistence. Résistência au lieu de résistência.
Mais par rapport à curar, il m'a semblé très important le texte de le nouveau livre qui est sorti de Ariela Aisha Azoulay par rapport à curare ou par rapport à conserver, en fait, qui est parce que la base de notre métier, comme tu l'as dit, Anna, c'est de s'occuper de maintenir, de take care, soit des artistes, des objets, mais elle, surtout, elle se penche sur les conservateurs, conservatrices des musées anthropologiques, ethnologiques, où tout le travail consiste à préserver et conserver et prolonger la vie des objets, mais des peuples qui ont été génocidés par cette même personne. Et comment ce tournant, et quelle violence en fait de ce métier, de dire on va prendre leurs objets qui ne sont pas, qui sont en fait liés à leur communauté, c'est un prolongement de leur vivant, et on va faire tout pour le cloisonner, pour le désanimer, garder en vie, pour avoir nous la valeur. Mais le peuple, on l'éradique. Et le livre, il est juste, c'est juste incroyable parce qu'il y a de tout. Il y a de tout dans ce livre. C'est un peu essentialiste parce qu'elle utilise les mots comme museum. Et on sent fort que ce n'est pas museum of contemporary art, proprement dit. C'est plus anthropologie, etc. Mais elle n'est pas très précise par rapport à ça.
C'est un exercice de fond, la décolonisation permanente de la pensée, de la pratique. Surtout quand on a fait des études académiques dans des sphères élitistes, je veux dire d'enseignement.
Ouais.
Donc c'est un long, long, long acheminement. Même pour me situer, je suis passé par des classes et des niveaux académiques. Et je sais que j'ai l'impression, moi, face à ce qu'on m'a appris, que je dois tout revoir depuis le début. Tant en termes de réflexes qu'en termes de notions.
Je suis entièrement d'accord.
Mais c'est le mot que tu utilises, Tristan, je pense qu'il a beaucoup de signification, particulièrement si j'essaie de resituer un peu cette réflexion à partir de nos échanges de la semaine. Tu viens de dire qu'il faut tout revoir. Mm-hmm. Hier, on était en train de parler de James C. Scott qui offre une merveilleuse... changement de perspective par rapport à qu'est-ce qu'on considère compter comme histoire par rapport à des sociétés dites primitives qui ne laissent pas des traces de leur histoire dans les monuments, avec des livres, avec justement des objets qui peuvent être mesurés, classifiés, nommés, apportés au musée. Et quelque part, quand il parle de justement regarder une histoire qui est dite invisible à partir de notre culture, mm-hmm. c'est aussi littéralement, moi je vois vraiment un changement d'optique. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est ce mot que tu évoques, de revoir, c'est-à-dire dans notre champ de vision et de... d'écoute, des sensibilités, ouais, ouais. Tuning, non, qui est un mot que notre chère Myriam Lefkowitz nous a tellement appris pendant notre année à SPIP avec sa pratique du corps, de l'attention au corps, de notre champ des visions périphériques, qu'elle en parlait tellement, et que je trouve que justement cette décolonisation permanente, dans la manière que je la appréhende, elle se fait aussi par une question de sensibilité des corps.
Et c'est là où ta pratique, particulièrement, Natacha, ton attention aux formes plus inframinces, aux formes plus fragiles, aux formes moins évidentes, aux formes difficiles, est absolument nécessaire justement pour regarder le monde d'aujourd'hui et changer un peu les récits dominants, quoi. Mm-hmm.
Merci. Ce qu'on dit un peu avec, quand les gens demandent qu'est-ce qu'on veut dire avec radical care? Radical care par rapport au fait que dans le champ dans lequel nous travaillons, que c'est radical pour ce contexte-là. C'est pas radical pour nous. Quand on s'est vu la première fois, on a fait, parce qu'une manière de comment on opère avec l'initiative, c'est on fait les picnic assemblies. Donc on se voit sous les arbres des jardins publics à Paris, surtout à Grand Paris. D'où viennent donc les artistes avec qui on travaille? C'est vraiment très, disons, très situé par rapport à métropole. C'était volontaire parce qu'à cause de confinement aussi. On s'est vu avec Fabiana Exousa. Et Fabiana nous a dit, oui, vous parlez de radical care, mais moi, j'ai une chose à vous dire. Moi, je suis le produit de radical care. Moi, sans radical care, je ne serais pas vivante, je ne serais pas où je suis, je ne vous parlerai pas d'où je parle aujourd'hui. Et c'était pour nous, c'était, ou surtout pour moi, c'était une sorte de... oui, c'est ça, exactement. Et ben c'est cette vulnérabilité, mais aussi transmission des pratiques de soins qui nous permettent d'œuvrer, d'être, de réexister, comme Anna, tu as dit, et de, un peu comme chez Contour, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement le contenu, mais la manière dont elles sont faites. Est-ce que dans la manière de faire radical care, on aussi emploie le radical care ou pas? Ça, on en a beaucoup discuté avec Elena récemment. À qui on veut vraiment s'adresser? Bah, c'est aux institutions. Mm-hmm. C'est aux institutions et les rapports qu'elles produisent et comment elles travaillent. Et là, je pense qu'on a vraiment quelque chose à les apprendre carrément avec les compétences de nous deux, mais surtout avec cette initiative. Donc, du coup, c'est un peu notre but aussi de... Si on est invité, par exemple, là, on va faire quelque chose à Fondation Fimenco. Et on se dit avec Elena, et là, je m'appuie sur le travail qu'on a un peu fait, et moi aussi particulièrement avec Kenya Teguia, qui est un artiste qui est sourd depuis sa naissance et qui travaille sur la surdité, qui est aussi activiste parce qu'il veut provoquer que les institutions travaillent sur leur validisme, en fait. Pour lui, c'est important que l'institution elle est consciente de tout ce que ça veut dire que quelqu'un qui est sourd vient travailler avec eux. Et on s'est dit de s'inspirer de ça et de dire, nous, on est une initiative qui travaille sur Radical Care. On ne va pas venir représenter. Comme Kenya ne vient pas représenter la communauté sourde, on veut que la façon dont on travaille est aussi le moment de réflexion pour l'institution. Donc du coup, ce qu'on va exiger, par exemple, ce qu'on va demander, en tout cas, c'est de rencontrer l'équipe, de poser des questions, des questions sur CARE, sur la, comment ils travaillent, hiérarchie, financièrement, vraiment très ouvertement, pour que nous, on apprend, mais qu'eux aussi, ils peuvent utiliser ça comme une sorte de moment clé d'échange. C'est ça.
Ouais. Parce que là, en parlant de CARE, c'est quand même pas mal, parce que tu sais, je sais pas si... Le quartier de l'Horloge, là, qui est vers, donc, entre Pantin et Romainville, c'est un quartier extrêmement pollué. C'est des usines, il me semble, pharmaceutiques qui étaient là. D'ailleurs, à côté, il y a encore une déchetterie. Et donc, normalement, en fait, c'est des endroits qui ne sont pas habitables. Donc, c'est assez étonnant aussi qu'une fondation ait le droit, en fait, d'accueillir des artistes qui viennent vivre là pendant un an. Alors que ce n'est pas habitable. Mais quand on a fait le j'avais organisé avec Sylvain Piron, Jaline Garde, un toxic tour autour de la forêt de Romainville, et on partait en fait sur le quartier de l'Horloge. On s'était un peu arrêté. Il est sur la 22 d'ailleurs. Il doit y avoir des petites choses sur la fondation Fimingo.
On va intégrer ça. Ouais.
Notamment, voilà, notamment sur le CARE. Moi, j'avais été très choquée de cette chose quand j'avais vu l'appel à projet, mais c'est pas des zones habitables, mais des artistes viennent vivre pendant
incroyable.
Un an sur un sol extrêmement pollué, tu vois. Enfin,
génial. Non, mais justement, ça serait quelque chose. Donc, on veut pas dire nous non. Dans ce contexte-là, mais de vraiment provoquer quelque chose.
Ouais,
et je trouve que c'est ça qui est... parce que pourquoi rester dans le bubble? Je ne crois pas que rester dans le safe space, the bubble, entre nous, ça peut porter des fruits. Mais dans les engagements, comme cette invitation ou quelque chose qui peut venir encore... Évidemment, s'il n'y a pas la volonté ensuite d'échanger, c'est pour ça que je reviens à cette idée d'exiger, disons que bah, nous, c'est cette manière de travailler, ça veut dire aussi travailler avec quelqu'un qui te... d'être host you. Donc, du coup, c'est là, à ce moment-là, bah, s'il n'y aura pas une possibilité d'échanger, bah, on ne va pas le faire, il n'y a pas de souci. Mais je crois que vous vouliez encore lire Stengers, non?
Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on est sur le chapitre 6, deuxième partie, apprendre à se protéger. Croyez-vous à la sorcellerie?
Et oui, depuis le début de la semaine, en fait, on s'inspire, mais en l'adaptant aussi beaucoup de la technique de l'arpentage que tu connais peut-être, Natacha, qui vient du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, qui a aussi été réactivée pendant la Seconde Guerre mondiale par des résistants, et aussi les praticiens de l'entraînement mental, quelque chose que je ne connais pas vraiment, mais que j'ai découvert un peu en regardant un peu l'histoire de cette technique. Et après, bien sûr, c'est devenu un des outils très importants de l'éducation populaire, notamment depuis les années 60. Et ce qui nous intéressait, donc oui, c'est une manière en tout cas de désacraliser l'écrit, d'aborder autrement des livres, de manière collective, de ne pas avoir une approche scolaire d'un ouvrage, mais plutôt d'en tirer des points qui sont intéressants et qui vont surtout créer une forme d'écho par rapport à des préoccupations, des pratiques qui sont les nôtres. Et c'est pour ça que c'est l'idée de mettre en commun une forme de lecture. Donc normalement, ce qu'on fait, mais là, on ne peut pas tout à fait le faire, mais c'est qu'on prend le livre et qu'on le déchire en parts égales en fonction du nombre de personnes qui vont le lire ensuite. Donc peu importe les chapitres, la découpe du livre, ça, on y va en fonction du nombre de personnes. Et chacun va commencer à lire, va lire une partie, mais plutôt dans son coin. Ça peut être une lecture solitaire à deux, à trois, à quatre. Et va en retirer les trois choses qui font sens, deux points de désaccord et une chose importante. Et après, on revient dans le groupe avec les autres personnes qui ont lu leur partie. On expose en fait ces points qu'on a tirés. Et donc, on réécrit en tout cas parce que chacun a retenu aussi de cette lecture. On apprend, on apprivoise ensemble en fait une œuvre. Donc nous, ce qui est assez différent, c'est que là, on aborde des ouvrages qu'on a déjà lus au printemps. Et donc là, on le reprend en sélectionnant une partie et on fait vraiment une journée, une lecture en lisant de cette manière. Et ça apporte aussi différemment en fait, de lire à haute voix, de s'arrêter, de discuter de certains points. Et après, de faire cet exercice, par contre, qu'on garde à chaque fois, les trois choses qui font sens, deux désaccords et une importante qu'on essaye de retirer. Donc nous, on le fait par rapport à notre fil de la semaine, qui est celui de l'état, de la critique de l'état et de l'état critique, et surtout de l'état critique de l'état. Et par rapport aussi à notre discussion du radical care, vu que c'est le chapitre qui ouvre « Apprendre à se protéger », notamment du système sorcier. On se trouvait qu'il y avait un écho, en tout cas, qui pouvait être, ça peut être assez beau d'en parler avec toi. En tout cas.
Croyez-vous à la sorcellerie ? Sorcellerie, c'est une métaphore, bien sûr. Vous ne voulez pas dire que vous croyez aux sorciers, aux vrais sorciers qui jettent des sorts, transforment des princes charmants en grenouilles ou frappent de stérilité de pauvres femmes qui ont eu la malchance de croiser leur chemin? À quoi nous répondrons que pareille accumulation traduit d'abord ce qui arrive lorsqu'on parle de croyance, celle des autres? On a tendance à tout mettre dans le même sac et à refermer le sac avec une ficelle portant l'étiquette surnaturel. Qu'on entend alors par surnaturel? Ce qui échapperait aux explications que nous jugeons naturelles, faisant appel aux processus et mécanismes qui sont censés relever de la nature.
Cri du cœur. La sorcellerie, cela n'existe pas vraiment. Bien sûr, les ethnologues peuvent intervenir et compliquer la donne. Cela existe, puisque cela fait partie de systèmes culturels. Et si nous donnons au capitalisme le nom de système sorcier, ce n'est pas non plus pour entrer en discussion à propos de la bonne définition d'un tel système. Au demeurant, c'est nous, les modernes, qui avons baptisé du même nom une multiplicité de pratiques, qui les avons réunies sous un même genre, pour ensuite distinguer des espèces à la manière des biologistes classificateurs. Et si nous avons pu le faire, en toute légitimité, c'est peut-être parce que nous, y compris les ethnologues qui ont été chez les autres, campions en toute tranquillité sur la différenciation entre ce qui est naturel et les croyances surnaturelles dont nous sommes heureusement libérés.
Et nous affirmerons que nos pauvres interprétations tout-terrain, efficacité symbolique, suggestion, croyance, métaphore, etc., sont bien incapables d'approcher la puissance des modes de pensée et d'action que nous croyons avoir détruits alors que nous avons surtout perdu les moyens appropriés de les répondre. Oser mettre le capitalisme dans la lignée des systèmes sorciers, ce n'est pas prendre un risque ethnologique, mais pragmatique. Car si le capitalisme entre dans une telle lignée, c'est sur un mode particulier, celui d'un système sorcier sans sorcier, qui se pense tel. Un système opérant dans un monde qui juge que la sorcellerie n'est qu'une simple croyance, une superstition, et ne nécessite donc aucun moyen adéquat de protection. Le risque pragmatique est d'accepter l'hypothèse de ce désastre, c'est-à-dire de constituer la question de notre vulnérabilité et de l'apprentissage des précautions nécessaires, un problème crucial. Certes, les bras armés de l'État n'étaient jamais très loin et il a été mis en œuvre, persécution, expropriation, répression. Mais les petites mains, croyant bien faire, toutes comme les grands voix présentant les destructions comme des sacrifices nécessaires, pris à payer pour que triomphe une raison libératrice, n'ont jamais manqué.
Notre expérience à tous deux, parce qu'elle touche à certains des thèmes centraux de cette conquête, l'objectivité scientifique et l'exercice de la médecine, enfin scientifique, nous a mis directement en contact avec les « nous savons bien, mais quand même », qui marquent les limites de ce prétendu multiculturalisme. Plus précisément, les limites de la notion de culture elle-même. Il y aurait certes des cultures multiples, toutes dotées de richesses respectables, mais il n'existe malheureusement qu'une seule nature, et c'est nous qui savons l'interroger. Chacun peut désormais voir et reconnaître les dégâts, les désarrois, l'éradication de manières de vivre, de sentir et de penser. Mais comment les éviter si nous pensons comme en avant sur tous les autres, les premiers sur un chemin qui est un droit celui de tous les humains?
Avoir compris que nous sommes tous des humains auxquels doivent être reconnus en tant que tels des droits inaliénables. Comment ne pas espérer que, comme nous, les autres apprendront à faire le tri entre l'universel qui nous réunit tous et le si nécessaire supplément d'âme culturelle? Mettre le capitalisme dans la lignée des systèmes sorciers, ce n'est pas le moins du monde le rendre responsable de tout. Nous l'avons affirmé, nous ne sommes pas toutes des petites mains, des âmes capturées. Mais nous devons maintenant ajouter, nous sommes tous et toutes vulnérables, en danger de le devenir. Et nous le sommes par les dilemmes incontournables que nous faisons proliférer chaque fois que nous nous définissons nous-mêmes, et cela souvent sans même y penser, comme représentants de l'humanité, comme sa tête enfin pensante. Chaque fois que nous oublions que la plausibilité de nos jugements traduit la destruction d'autres manières de penser et de faire.
L'idéologie communique avec l'image d'un écran, d'idées qui font écran, qui empêchent d'accéder au bon point de vue. Mais le petit main qui sait fabriquer le capitalisme depuis les gestionnaires des ressources humaines jusqu'aux scientifiques, ne sont pas aveuglés par une idéologie. Il vaudrait mieux dire, employant un vocable sorcier, qu'elles sont mangées, c'est-à-dire affirmer que c'est leur capacité même à penser et à sentir qui a été la proie de l'opération de capture. Être aveuglé implique que l'on voit mal, ce qui peut être corrigé. Mais être capturé implique que c'est la puissance de voir elle-même qui est affectée. Corrélativement, il ne suffit pas de dénoncer une capture comme on pourrait dénoncer une idéologie. Alors que l'idéologie fait écran, la capture fait prise. Et elle fait prise sur quelque chose qui importe, qui fait vivre et penser celui ou celle qui est capturée.
L'affirmation qu'il y a capture impliquera bien plutôt, quant à elle, un mouvement double, mise en suspens et mise en risque. Mise en suspens d'abord, c'est-à-dire refus d'entrer dans l'éraison des scientifiques lorsque ceux-ci justifient le caractère incontournable de l'institution scientifique et de ses prétentions. Sans surprise, ces raisons apparaissent en effet comme fondées sur des dilemmes incontournables, devenus parfois si familiers qu'ils en viennent à ressembler à des évidences anthropologiques. Ainsi, en ce qui concerne la formation dite disciplinaire des scientifiques.
La destruction des capacités de penser, de s'y situer, les mépris bénins envers les questions jugées non scientifiques se transforment alors en dénonciation de l'irrationalité menaçant les progrès auxquels travaillent les chercheurs avec ceux qui savent les respecter. À ce mode d'approche correspond une mise en risque, ensuite, car la dénonciation fondée sur l'idéologie des sciences, des scientifiques, ne marche plus. C'est en effet le mode de mobilisation des scientifiques qui crée la différenciation entre ce qui est jugé vraiment scientifique, digne d'être pensé, et ce qui est dit idéologique. La capture, quant à elle, parce qu'elle fait prise sur ce qui fait exister et penser les scientifiques, communique avec un « nous ne savons pas ». Ce « nous ne savons pas » n'est pas une ignorance, mais une question qui engage. Elle implique non la critique, mais l'attention aux situations concrètes où pourraient se dessiner les trajets d'apprentissage. La question de cette mise en risque est, pour nous, cruciale, car c'est elle qui donne sa valeur pragmatique au diagnostic sorcier que nous tentons, risquons.
Toutes les pensées de la sorcellerie disent le risque d'affronter une opération sorcière, la nécessité de se protéger, car le danger est toujours là d'être soi-même capturé. Qui se croit assuré à cet égard? Qui croit qu'il peut se passer de protection se désigne lui-même comme proie. Nous n'en savons pas énormément sur la question de protection, puisque nous appartenons à un monde qui le méprise. Mais nous pensons que nous devons, en tout cas, apprendre à nous protéger, ça quoi nous nous savons vulnérables, comme en témoigne l'assurance imprudente des critiques d'idéologie, des démystificateurs, de tous ceux qui font œuvre de déconstruction des apparences auxquelles les autres se laissent prendre.
Après, il y a un mode d'écriture qui est assez compliqué parce qu'il y a toujours une sorte de retournement de point de vue de ce qu'une forme de pensée populaire produite par la machine capitaliste a tendance à penser et qu'ils expriment à chaque fois par des petites expressions, mais typiquement françaises aussi, que tu vas retrouver sur la question des alternatives, oui, mais, enfin, tu as toutes ces choses-là qui sont presque des formules idiomatiques qu'elles transforment en sorte de formule magique un peu de ce système sorcier. Qu'elle essaye de déconstruire, enfin elle et il, hein, ils sont deux. Mais du coup, c'est vrai qu'à chaque fois quand elle parle parfois pour ceux qu'elle est en train de dénoncer ou ceux dont elle veut se défaire. Donc il y a un truc de point de vue, ouais, exactement, qui n'est pas forcément évident.
Et là où je pense qu'elle est très forte, c'est qu'elle montre véritablement l'ambivalence, l'ambiguïté du système. C'est-à-dire que justement, le point de vue, il change à tous les niveaux et tout le temps, et il est mouvant. Et c'est ça qui rend la compréhension du texte très difficile, même pour un francophone.
Et après, sur la question des petites mains, ce qui n'est pas évident, en fait, c'est qu'ils ont... Enfin, c'est une expression en français, en fait, qu'on utilise normalement pour les, on va dire, les petites gens. Il y a quelque chose d'un peu condescendant.
Condescendant, oui, c'est ça. Ouais.
Et en fait, eux, ils l'utilisent pour ceux qui perpétuent le système. Mmh. Donc, en fait, un haut fonctionnaire est une petite main.
Ah, c'est ça.
C'est quand même un peu en décalage par rapport à l'habitude. C'est pas ceux qui sont tout en bas, non. C'est ceux qui, à vouloir bien faire, à tâcher, à obéir, en fait, aux règles, aux procédures qu'ils doivent faire dans leur travail, notamment administratif, mais aussi scientifique, à ne pas vouloir faire bouger le cadre du laboratoire ou des pratiques.
Et qui, en fait, maintiennent l'État.
Exactement, maintiennent, ouais, perpétuent cette machine, en tout cas, et la rendent aussi de plus en plus forte.
Mais la sorcellerie, donc du coup, mais là, dans ce chapitre-là, moi, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'elle parle ici du capitalisme ou elle parle plutôt cette sur ce regard sur les fabrications des objets scientifiques. Si nous donnons au capitalisme le nom de système sorcier, ce n'est pas non plus pour entrer en discussion à propos de la bonne définition d'un tel système. Donc quand même, non, elle parle de ça, mais elle le lit. Moi, ce qui me confond, c'est qu'elle le lit vraiment à la production scientifique.
Et je pense qu'elle veut, à partir d'observations, c'est montrer la production capitaliste des sciences.
Mmh, c'est
montrer
ça.
Que ces positions scientifiques, notamment extrêmement cloisonnées par discipline, qui peuvent faire émettre des choses formidables à l'intérieur d'une discipline, mais en fait bloquent et rendent un peu naïf dès que tu veux aller un peu plus loin ou prendre en considération, et notamment c'est cette chose qui va faire que politique et science sont extrêmement séparées, etc.
Non, mais c'est, par exemple, je reprends ce passage qui est page « Oser mettre le capitalisme dans la lignée des systèmes sorciers, ce n'est pas prendre un risque ethnologique, mais pragmatique, car si le capitalisme entre dans une telle lignée, c'est sur un mode très particulier, celui d'un système sorcier sans sorcier qui se pense tel, un système opérant dans un monde qui juge que la sorcellerie n'est qu'une simple croyance. » En fait, j'ai l'impression que le système sorcier capitaliste est un système qui ne dit pas son nom.
C'est que j'allais dire justement un peu dans la lignée que tu viens de lire, et merci Tristan pour cet extrait, parce que je pense que c'est justement l'un des extraits que pour moi condense un peu tout le chapitre, c'est que d'une certaine forme, en comprenant le travail de Stengers comme quelqu'un qui justement vient de cette tradition pragmatique, c'est justement presque un désir de ramener le capitalisme au laboratoire. le système à la mode d'une scientifique. Donc du coup elle ramène les deux un peu à une échelle des comparaisons qui, je suis en accord avec Natacha, parfois c'est très, ça me confonde, je suis pas sûre de tout suivre. Ouais, et la chose que me sort, c'est de penser justement qu'elle est en train d'observer les systèmes à la mode d'une scientifique, et justement en voulant détourner cette idée que dans la rationalité d'un système capitaliste, il n'y a pas de croyances, il n'y a pas de foi, et il n'y a pas de surnaturel. Ouais.
Mm-hmm.
Parce que,
c'est un système vraiment profondément surnaturel,
voilà.
mais qui se montre comme quelque chose de rationnel et même presque comme quelque chose de naturel. En fait, c'est un système qui, encore une fois, comme l'État, se naturalise. Et j'ai une question pour vous. Et donc, quand elle parle de ce nous,
bah, c'est déjà, ils sont deux à écrire, donc il y a aussi.
Parce que quand elle dit nous parle, d'accord, c'est de nous aussi, de Pignard et Stengers.
Oui, comme ils sont deux à écrire, c'est vrai que ça peut être aussi parfois compliqué parce qu'il y a un nous, je pense, de nous deux en tant qu'auteurs. Mais après, je pense qu'il y a un nous un peu plus large de ceux qui pensent à partir de Seattle, d'hériter de cet événement, du cri « Un autre monde est possible » et qu'à partir de là, en fait, il y a des pensées qui se mettent en route et qu'elle fait partie de ceux qui revendiquent cet héritage, en fait.
Et ça va à la rencontre de justement la première évocation de Natacha d'aujourd'hui, de qui est cette nous, comment les définir, à partir d'où est-ce qu'on parle. Dans les cas de Stengers, c'est nous toujours en train de se redéfinir ou de se réduire quelque part dans les textes, non, d'une forme qu'on se perde même.
Mais c'est vrai que ça pose quand même question, effectivement, ce nous qui doit sûrement être un nous métropolitain. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas bien, le capitalisme ne nous a pas soumis d'abord par le fer et par le feu, surtout de quelqu'un qui se revendique, enfin qui revendique quand même, parce qu'elle a énormément travaillé sur les commons, et donc cette histoire oubliée.
Et c'est comme s'il n'y avait pas justement la question qu'on a soulevée depuis 3 jours maintenant, qui est la question de la coercion pour la création d'un État unificateur qui contrôle les flux d'économie, les flux de désir, la production de plantations, d'agriculture, des corps. Il me semble que si on est en train de poser la question de Pierre Clastres à nouveau, quelle est l'origine de l'État, il y a une force de coercion qui est énorme, qui s'impose. Non, donc, je ne suis pas sûre que je suis d'accord, comme elle dit, que le capitalisme ne nous était pas...
Voilà, moi c'est un passage aussi où je suis pas forcément très d'accord avec aussi, certes, le bras armé de l'État n'était jamais très loin, il a été mis en œuvre, oui.
Ça pourrait être un autre désaccord alors. Je pense que c'était toi, Clémence, qui a dit quelque chose que je pense qui est assez forte, c'est dans l'écriture de Stengers-Pignard, il y a quelque chose comme s'ils étaient possédés par ce qu'ils écrivent. Il y a un affaire de possession. Et dans cette incarnation de la sorcellerie qui n'est pas celle qui est souhaitée par eux, il y a une certaine amerté qu'il y a dans le texte. Ma seule remarque par rapport à la question d'Isabelle Stengers, c'est peut-être aussi c'est mon problème avec la manière que je comprends ce terme de sorcellerie, c'est que pour moi, la sorcellerie ne se définit pas comme un système macro, mais plutôt comme un système vernaculaire et petit. Donc, du coup, j'aime bien la provocation, mais il y a quelque chose profondément qui me trouble dans cette liaison des sorcelleries et capitalisme depuis le début de ce livre. Je pense que c'est mon plus grand désaccord, à cause peut-être de juste mon affect profond par la question de...
Est-ce que justement, ça ne te fait pas réfléchir à ce que serait véritablement le capitalisme, et que le capitalisme n'est pas justement qu'une macro-machine? Mais est peut-être fait de multiples foyers qui sont disséminés et dont on n'arrive pas parfois à les identifier. Et que peut-être justement la capacité de transformation et la capacité du capitalisme à pouvoir se nicher partout et à pouvoir détruire sa propre critique, ouais, c'est sa capacité à se transformer.
Une sorte de décentralisation, quoi.
Décentralisation, même, c'est aussi lié, tu vois. C'est...
Ouais. Mais une dernière chose, et après je vais vous quitter avec en route vers possession. Mais ce que Clémence a dit au début, est-ce que ce qui revient à la fin, c'est pas clair non plus ce qu'elle propose pour se protéger?
La protection, c'est reconnaître des torts qui sont faits, nommer les choses différemment qu'elles ne sont nommées, et pour pouvoir retrouver une forme de puissance d'agir. Enfin, qui est ça,
En tout cas, je pense qu'on a très bien fait l'exercice sans le dire. Sens importante et désaccord, mais chacun avec une version différente.
Ouais.
En tout cas, c'était un réel plaisir d'être avec toi.
Merci beaucoup. Et puis, vous me dites pour la suite.
Bien sûr, on va le faire.
On peut ça bien.
Merci, Natacha.
Merci. Merci.
Bonjour, Natacha.
Ciao, ciao. Merci pour tout.
L'État contre la critique de l'État critique.
L'État contre la critique de l'État critique. L'État contre la critique de l'État critique. L'État contre la critique de l'État critique. L'État contre la critique de l'État critique.